France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 un économiste HESS, École d'économie de Paris. Questions et réactions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application France Inter. Thomas Piketty, bonjour.
Bonjour.
La crise des gilets jaunes s'est poursuivie samedi. Manifestations un peu partout en France, mobilisation comparable avec celle de samedi dernier, en dépit de la montée en puissance du dispositif de maintien de l'ordre. Il y a eu encore beaucoup de violence à Paris et dans différentes villes de province. Un mot sur ce que disait l'historien Pierre Rosanvallon dans Le Monde ce week-end. Il disait que ce mouvement témoignait, selon lui, du basculement dans un nouvel âge du social, que les Français qui le composent témoignent autant de leurs difficultés économiques que du mépris dont ils se sentent l'objet. Que pensez-vous de cette analyse, vous comme économiste ?
Moi, je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron a fait une grande erreur en passant son temps à parler des premiers de cordée, du fait que la priorité des priorités, c'était d'accorder cette baisse d'impôt sur la fortune, cette priorité. Tous les gens dans le pays qui se considèrent pas comme des premiers de cordée et qui ont eu l'impression de ne pas être visés par le chef de l'État se sont sentis abandonnés, humiliés. Vous savez, c'est assez rare en politique qu'on voit aussi bien une situation où vous avez un gouvernement qui a clairement de l'argent pour certaines personnes et qui n'en a clairement pas pour d'autres. C'est-à-dire, d'habitude, c'est plus caché, c'est plus compliqué. Là, Emmanuel Macron est parti là-dedans, bille en tête. Même Nicolas Sarkozy en 2007, souvenez-vous, il n'était pas à tendre, hein, mais il avait louvoyé, il avait fait le bouclier fiscal sur lequel il avait dû revenir en 2012, parce qu'entre-temps, il y a eu la crise financière de 2008, il y a eu beaucoup de changements. Maintenant, on a Trump, le Brexit, le vote xénophobe. Et je pense que c'était vraiment une grave erreur historique en 2018. Je crois que vraiment, si Emmanuel Macron veut être le président des années 2020 et non pas des années 90 quand il était élève à l'ENA, qui se formait, etc., il va falloir qu'il rétablisse l'ISF pour consacrer l'argent à la transition énergétique. Là, il y a vraiment, on est à une bifurcation. C'est-à-dire, est-ce que le plus important pour lui, c'est l'ISF, l'idéologie pro-riche, complètement dépassée et à mon avis discréditée après la crise de 2008, après la montée du populisme, ou est-ce qu'il se tourne vers les années 2020? La lutte contre le réchauffement climatique, un capitalisme plus social, moins inégalitaire. Là, on est vraiment. Mais il faut qu'il décide.
Thomas Piketty, on va parler de l'ISF dans un instant, mais n'est-ce pas un peu réducteur de dire c'est la faute de Macron au fond d'appliquer les vieilles méthodes des années 90? Est-ce qu'aujourd'hui il ne paye pas aussi 30 ou 40 ans d'accroissement des inégalités? Ce que je veux dire, c'est que ça tombe sur lui, mais est-ce qu'il ne faut pas remettre les choses
bien
dans
sûr,
le contexte?
Bien sûr, vous avez raison, il est là au pouvoir seulement depuis un an et demi, enfin en fait quand même plutôt depuis 6 ans et demi quand même, hein, il faut pas, mais bon, vous avez raison. En même temps, il reste que là, il en a rajouté une couche en 2018 sur la dérive inégalitaire en faveur des plus riches, et là je pense que vraiment c'était pas très malin. C'est-à-dire que là il a vraiment, donc là la première chose à faire, je pense, ce serait vraiment de revenir là-dessus. Et s'il ne fait pas ce geste, parce qu'on parle quand même de sommes importantes, c'est-à-dire que les recettes de l'ISF, vous savez, elles étaient en très grande progression, ce qui montre bien d'ailleurs que le nombre de contribuables et le montant des patrimoines déclarés à l'ISF, il n'y avait pas du tout l'hémorragie qu'on décrit parfois, ça augmentait même plus vite que les patrimoines immobiliers, qui eux-mêmes augmentaient plus vite que le produit intérieur brut, que la masse salariale. C'est comme ça que les recettes de l'ISF sont passés de son multiplié par 4 entre 1990 et 2017, alors que le PIB nominal de la France était seulement multiplié par 2.
Rétablir l'ISF,
c'est que ça coûte cher. Ce que je veux dire, c'est que les recettes perdues aujourd'hui, en 2022, la perte de recettes sera encore plus élevée, c'est de l'ordre de 5 milliards
d'accord,
par an.
D'accord, mais s'il annonce ce soir le rétablissement de l'ISF, en quoi ça va changer la vie des gilets jaunes?
Parce qu'il peut immédiatement mettre ces 4 ou 5 milliards d'euros par an sur la table pour faire de la compensation liée justement à la transition écologique. Si vous voulez, la règle de base en matière de taxe carbone et de transition écologique, c'est que si vous voulez une taxe carbone qui soit acceptée et une transition qui fonctionne, c'est qu'il faut affecter la totalité des ressources venues de la taxe carbone pour accompagner ceux qui n'ont pas accès au transport en commun, accompagner, faire les investissements nécessaires. Là, le choix qui a été fait, c'est que sur les 4 milliards d'euros de taxes supplémentaires sur les carburants et sur l'énergie de 2018, et sur les 4 milliards d'euros qui étaient prévus pour 2019, seulement 10% de ces sommes étaient prévues pour l'accompagnement, et le reste, de facto, finançait la suppression de l'ISF, la flat tax sur le revenu du capital. Donc là, il y a quelque chose qui est quand même très difficile à accepter. Surtout que si encore le pouvoir en place avait des éléments concrets pour justifier les effets de sa politique fiscale par ailleurs, mais il y a rien. Donc là, on a besoin de revenir là-dessus. Mais on a besoin aussi de faire des choses à un échelon plus élevé.
À l'échelon européen. On va y venir, mais quelques mots encore. Pierre Moscovici, à ce micro, disait que l'ISF n'est pas un impôt parfait. C'est vrai qu'il est très souvent et a été très longtemps critiqué, mais qu'il avait en tout cas une utilité qui est de garantir le consentement de tous à l'impôt. Êtes-vous sur cette ligne-là ? Est-ce que c'est juste un impôt symbole qui permet à l'ensemble du système de fonctionner, ou est-ce que c'est un impôt beaucoup plus puissant que ce qu'il a été jusqu'à présent ?
Alors, d'abord, même avec la mauvaise administration dont il fait actuellement l'objet, parce qu'effectivement le contrôle fiscal sur l'impôt sur la fortune est insuffisant, mais malgré toutes ces insuffisances, 5 milliards d'euros, c'est pas rien. 5 milliards d'euros, c'est le montant là, des taxes sur le carburant qu'on voulait augmenter cette année. 5 milliards d'euros, c'est 40% du budget total de l'enseignement supérieur en France. C'est-à-dire tout l'argent qui est mis dans toutes les universités, toutes les écoles d'ingénieurs, etc., c'est 12 milliards d'euros. Et or, le nombre d'étudiants a augmenté. Et les investissements, finalement, dans l'avenir, dans la jeunesse, par étudiant, ont diminué 10% au cours de ces dernières années. Rien qu'avec ces 4 ou 5 milliards d'euros, on aurait pu les augmenter de 20 ou 30% par étudiant. Donc, commençons par remettre les choses en place. Quand les gens disent « Oh, c'est pas beaucoup d'argent », bon, où est-ce que vous le trouvez, cet argent ? C'est quand même beaucoup d'argent. Deuxièmement, ça pourrait rapporter beaucoup plus. Ça pourrait rapporter plus de 10 milliards d'euros, l'ISF. C'est pas difficile de le comprendre. La taxe foncière, c'est combien d'argent aujourd'hui ? 40 milliards d'euros. Et pourtant, la taxe foncière, ça exonère les actifs financiers, c'est uniquement l'immobilier. Or, les actifs financiers sont ce qu'il y a de plus concentré comme patrimoine. Donc, quand je vous dis un impôt sur les plus hauts patrimoines au-delà d'un million d'euros pourrait rapporter 10 milliards, c'est pas théorique.
Mais Thomas Piketty...
c'est la réalité parce que les patrimoines sont très concentrés. Juste un point sur l'administration de l'impôt. Est-ce que vous vous rendez compte que sur l'impôt sur le revenu, on a tous, vous et moi, des déclarations pré-remplies dans lequel n'importe quel salaire, y compris des tout petits salaires, vous pouvez pas frauder. C'est là, dans votre déclaration pré-remplie. Savez-vous que, par contre, ça n'a jamais existé pour l'impôt sur la fortune, où on pourrait très bien avoir les banques qui observent si vous avez un contrat d'assurance vie, Nicolas Demorand, à la Société Générale, je sais pas quoi, ça pourrait être transmis, et il y aurait une déclaration pré-remplie d'ISF, de façon à ce que personne fraude. Et ben là, évidemment, pour les personnes les plus fortunées, ça, on l'a jamais mis en place. C'est-à-dire que là, on suppose la bonne foi, après avoir eu un ministre du budget qui avait des économies en Suisse et qui pensait qu'il pourrait passer à travers. Vous voyez, la justice est à deux vitesses, là. C'est-à-dire que d'un côté, on poursuit n'importe quel petit salaire pour le faire payer, mais quand il y a des actifs importants, on les exonère.
Mais quand vous entendez Gérald Darmanin à votre micro la semaine dernière dire, l'ISF, elle est entrée en vigueur en juin dernier. Laissez-nous du temps pour voir si cette mesure-là va ramener les riches qui sont en Belgique, en Suisse, ou à Londres, va les faire revenir en France, laisser du temps pour voir s'ils vont investir davantage, si, au fond, vous pouvez même pas laisser le temps, d'une certaine manière, que peut-être ça peut marcher. Par définition, il faut rétablir l'ISF et, point.
Moi, je me base sur des éléments vraiment très factuels, qui, voilà, c'est mon travail de regarder ça, qui sont que les déclarations à l'ISF, les montants de ces déclarations pendant toutes les années avant 2017 progressaient à un rythme très fort. Donc quand vous avez une base fiscale qui est aussi dynamique, comme on dit, c'est-à-dire où vraiment, visiblement, il n'y a pas du tout d'hémorragie, aller dire, ah tiens, si on donnait 5 milliards de plus à ce groupe, et puis on verra si par hasard ça leur permet pas de croître encore plus vite. Mais si vous voulez, on parle de patrimoine, là, qui, je vous répète, hein, les recettes de l'ISF ont été multipliées par 4 entre 90 et 2017, et les patrimoines correspondant à peu près par 4, alors que le PIB nominal de la France et la totalité de la production étaient multipliés par 2. Donc, quel est l'objectif? Que les plus hauts patrimoines soient multipliés par 8, par 16? Vous voyez, à un moment, faut faire preuve un peu de bon sens et avoir, c'est très bien d'avoir des riches, des pauvres, des moyens, mais il faut que tout ça progresse de concert, à peu près au même rythme. À long terme, vous pouvez pas, sinon ça peut pas fonctionner.
Quelle est votre position, Thomas Piketty, sur l'augmentation du SMIC, demandée par certains gilets jaunes, défendue par certains syndicats, pas tous, redoutée par beaucoup de patrons ou leurs représentants, récusée par votre collègue économiste Jean Tirole et exclue par le gouvernement car ça détruit des emplois, a dit Muriel Pénicaud hier. A-t-elle raison ?
Je pense que le SMIC ne doit pas décrocher par rapport au reste des salaires. Donc il faut maintenir le principe non seulement d'indexation sur l'inflation. Hein, il faut quand même se rappeler que l'inflation, c'est quand même 1,5-2% par an. Donc sur un quinquennat, ça fait 8-10%. Donc parfois, quand le gouvernement nous dit « Ah, regardez, on va donner un mois de plus de SMIC d'ici la fin du quinquennat », c'est simplement la compensation de l'inflation. Donc il faudrait arrêter aussi d'essayer de tout le temps arnaquer les gens sur ce genre d'annonce. Mais il faut aussi donner un coup de pouce au-delà de l'inflation qui doit être maîtrisée, mais 1-2% de l'inflation, c'est possible. Par ailleurs, il faut quand même, il serait vraiment temps en France que des mécanismes comme la prime d'activité soient versés chaque mois directement sur le bulletin de salaire. Actuellement, il faut en faire la demande, on vous complique la vie, et résultat, beaucoup de gens ne le demandent pas, c'est tous les trimestres. Avec le passage au prélèvement à la source, je pense qu'il aurait fallu pour rendre aussi le prélèvement à la source plus acceptable, en profiter pour avoir un versement direct sur le bulletin de salaire sur tous les bas salaires, ce qui permettrait, là pour le coup, d'augmenter le SMIC net immédiatement de l'ordre de 200 euros par mois. Et ça, ce serait une mesure très forte qui, je pense, là devrait être prise, parce qu'avec la mise en place du prélèvement à la source, dont Macron visiblement ne voulait pas, mais a finalement été obligé de faire, etc., etc., s'il ne fait pas ça là, je pense que là, c'est vraiment le minimum. Le versement sur le bulletin de salaire de la prime d'activité, je comprendrais pas que ce soit pas annoncé immédiatement.
Question d'actualité, puisque l'actualité se fait en ce moment. À l'instant, Bruno Le Maire dit que le mouvement des Gilets jaunes, ces quatre semaines, en gros, de mobilisation des Gilets jaunes, a coûté 0,1 point de croissance pour l'année 2018 pour la France. Et la Banque de France dit croissance prévue en forte baisse au quatrième trimestre à 0,2%. Votre réaction à ces chiffres-là ?
Ben, c'est sûr que s'ils mettent tout le monde dans la rue, ça va pas tellement aider pour dynamiser l'économie française. Donc moi, j'ai pas de chiffres à ajouter à ça. Je dis juste que oui, écoutez, vous mettez tout le monde dans la rue, c'est sûr que c'est pas bon. Hein.
Une dernière question sur ça. Est-ce que c'est pas le moment aussi d'oser parler de la dépense publique? Est-ce que c'est pas le moment de dire, alors qu'on flirte avec les 100% de la dette, de dire, comme Jean Tirole l'a dit hier dans le JDD, de proposer d'évaluer désormais chaque dépense publique de l'État et de la supprimer si elle n'est pas efficace? Est-ce que vous dites, il faut la poser aussi la question de la dépense publique?
Mais il faut toujours poser la question de l'évaluation de la dépense publique, de la dépense privée, parce que figurez-vous qu'il y a beaucoup d'argent dans les grandes entreprises privées qui est aussi très mal dépensé, il y a beaucoup de gaspillage de patrons qui se payent des bureaux, des jets privés qui n'ont aucune utilité productive. Donc il faut évaluer tout ça. C'est-à-dire que quand on parle de grandes sommes d'argent, et à partir du moment où le secteur public au sens large c'est 30, 40, 50%, il faut toujours l'évaluer. Moi j'ai écrit pour réformer le système des retraites, réformer le système d'assurance chômage, les systèmes des universités, de l'enseignement supérieur. Je pense que oui, bien sûr, il faut toujours le faire. Oui. Mais il ne faut pas utiliser ça comme une excuse pour faire des coupes sauvages ou pour faire passer un espèce de discours idéologique selon lequel la dépense publique serait toujours inutile et la dépense privée toujours formidablement efficace.
Thomas Piketty, vous lancez donc aujourd'hui un manifeste pour relancer l'Europe grâce à une assemblée européenne souveraine, grâce également à l'arme budgétaire, un budget 4 fois plus important pour l'Europe qu'il ne l'est actuellement. Expliquez-nous simplement pourquoi lancer cet appel aujourd'hui, comment parvenir à ce que vous appelez de vos voeux, vous et les signataires nombreux de ce manifeste, et avec qui espérez-vous avancer, considérant l'état de division de l'Union européenne aujourd'hui?
Alors, je pense qu'il est très urgent de se préparer pour la suite, de se préparer éventuellement aux prochaines crises, parce que je pense qu'il y aura d'autres crises en Europe, hein, des crises financières, des crises politiques, et donc il faut se préparer. Il faudra reconstruire de toute façon quoi qu'il arrive. Donc moi, je préférerais que le type de proposition qu'on fait là soit adopté à froid, évidemment. Maintenant, en pratique, c'est vrai que souvent l'Union européenne avance dans les crises. Ça a toujours été comme ça et ça va continuer. Et ceux qui disent que rien ne changera dans les années qui viennent, je pense, sont très naïfs, parce que là, on a beaucoup de choses qui se présentent. On est dans une situation quand même où de plus en plus, on a au niveau de l'Union européenne une opposition entre d'un côté des gouvernements anti-européens dont le seul programme parfois est la chasse aux réfugiés, la chasse aux étrangers. Enfin, ça devient quand même de plus en plus nauséabond. Et de l'autre côté, on a des gouvernements comme en France qui se prétendent européens. Qui se prétendent européens, mais qui en réalité, par la politique qu'ils mènent et par la montée des inégalités auxquelles ils concourent et par leur adhésion à un libéralisme dépassé, ne font que contribuer au sentiment de désespérance, au sentiment anti-européen, et il faut sortir de ce dialogue mortifère. Donc, dans ce manifeste, qui est donc le manifeste pour la démocratisation de l'Europe, qui est en ligne sur le site tedem.eu, des milliers de personnes l'ont signé déjà ce matin en quelques heures, parce que je pense qu'il y a une demande d'espoir. C'est un projet collectif qui a été mis en place avec des dizaines de juristes, de responsables politiques, qui est ouvert à la signature des responsables politiques de tous bords, et pour l'améliorer, parce que c'est une proposition ouverte. Donc,
si vous deviez la résumer en quelques mots, parce qu'elle fait 4 pages, on a lu les 4 pages, mais c'est vrai, si vous deviez.
Alors, c'est ce manifeste pour la démocratisation de l'Europe, c'est d'abord un manifeste pour la justice fiscale. Et c'est là qu'on est, les Gilets jaunes, il y a une réponse française, il y a une réponse européenne. La démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple, et le but de ce manifeste, c'est de faire en sorte qu'une majorité populaire en Europe, puisse adopter une politique de justice fiscale et sociale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, à cause notamment de la règle de l'unanimité en matière fiscale qui fait que le Luxembourg, l'Irlande peut bloquer. On ne va jamais réussir à avancer à 27 ou à 28. parce que ces pays continueront de bloquer. Donc je crois qu'il faut assumer, et c'est ce que nous nous faisons dans ce manifeste, de construire des institutions pour un plus petit nombre de pays, donc cette assemblée européenne souveraine qui pourra voter des impôts communs et qui pourra financer un modèle de transition écologique en commun. À terme, on aimerait qu'il concerne tous les pays, mais pour commencer, il faut,
Combien de pays ?
Combien à terme, on voudrait que tout le monde puisse
Là, pour l'instant,
La beauté du projet, c'est que ça a été construit pour avancer petit à petit. Donc, on peut très bien avancer la France et la Belgique, la France et l'Allemagne. C'est encore mieux si on a la France, l'Allemagne et la Belgique, et l'Italie et l'Espagne. Mais ça a été fait pour avancer à deux. Je vous donne un exemple. Emmanuel Macron donc, va s'exprimer ce soir. Il y a quelques semaines, avec Angela Merkel, il a dit « Tiens, on pourrait faire, pour l'Europe de la Défense, une assemblée parlementaire franco-allemande. Ben, » Moi, je lui dis « Banco, faisons une assemblée franco-allemande sur la justice fiscale. » C'est-à-dire pour faire quoi ? Mais pas consultative, parce que lui, son assemblée franco-allemande sur la Défense, c'est pour discuter, ce qui est très utile. Mais moi, je veux une assemblée européenne, donc pour commencer franco-allemande, belge, italienne, espagnole, enfin on verra, permettant de faire quoi ? De voter. Mais pour de vrai, pas pour discuter, de voter un impôt sur les bénéfices des grandes sociétés pour faire en sorte que, enfin, nos petites et moyennes entreprises en France, en Allemagne, paient moins d'impôts que les plus grandes multinationales. C'est quelque chose dont on parle depuis des années, mais on ne fait rien.
Mais pourquoi on ne fait rien? Pardon, qui siégera à cette assemblée?
Et comment on y arrive? Qui l'a créé?
C'est-à-dire qu'on vote pour des députés en France, on vote pour des députés européens, et on votera pour des troisièmes types de députés.
Repartons de cet exemple. L'assemblée parlementaire sur la défense, l'assemblée parlementaire franco-allemande dont parlait Macron et Merkel il y a quelques semaines. Ça rassemblait des députés du Bundestag, des députés de l'Assemblée nationale. Ce qu'on propose sur l'Assemblée européenne, fondamentalement, c'est quelque chose comme ça. Parce que pour finir, ce sont ces députés nationaux du Bundestag, en Allemagne, l'Assemblée nationale en France, qui peuvent engager le contribuable national. Vous voyez, à partir du moment où on veut construire de la décision commune en Europe qui rentre vraiment au cœur du pacte social et fiscal des pays, et qui ne soit pas simplement à traiter des traités commerciaux avec le reste du monde à faire de la régulation monétaire ou financière, mais qui rentre vraiment au cœur des impôts, qui est quand même vraiment le cœur de la souveraineté parlementaire. Il faut mettre en place les députés nationaux. Donc très concrètement, dans le traité, l'Assemblée européenne qu'on propose, elle est composée pour 80% de ses membres de représentants des assemblées nationales en France, Bundestag en Allemagne, en proportion de la population de chaque pays, en proportion des différents groupes politiques, parce que c'est important de voir que tous les Allemands sont pas d'accord, tous les Français sont pas d'accord, il faut arrêter d'opposer pays contre pays, donc il faut que tous les groupes politiques de chaque pays soient représentés, et pour 20% de représentants du membre du Parlement européen. Je dis d'emblée que ces paramètres et ces chiffres sont ouverts à la discussion. C'est-à-dire notre projet pourrait très bien marcher si on n'avait que 50% de membres des parlements nationaux, ou même moins que ça. Je pense que simplement ce serait une erreur de trop réduire la part de l'implication des députés nationaux, parce que, à nouveau, le pacte social et fiscal des pays, ça repose vraiment sur les députés nationaux, et donc c'est vraiment important de les mettre en jeu. Mais le plus important, c'est surtout que cette assemblée soit souveraine, quelle que soit sa composition. Il faut qu'elle soit souveraine sur le vote de ses impôts communs et sur la justice fiscale. Ce qui n'est pas le cas du tout actuellement du Parlement européen, puisqu'il y a un droit de veto. Il suffit que le ministre des Finances du Luxembourg ne veuille pas d'un impôt et il ne peut rien se passer.
Juste un mot avant de donner la parole aux auditeurs de France Inter. Thomas Piketty, vous ne redoutez pas qu'on vous dise ciel, une nouvelle usine à gaz d'une facture différente et d'une autre génération que les précédentes, mais encore une qui va compliquer au lieu de simplifier le fonctionnement de l'Union?
Alors écoutez, vous savez, au moment où on a réuni les états généraux en France en 1789, il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi vous voulez créer une assemblée nationale? Là, on a l'assemblée de la noblesse, l'assemblée du clergé, l'assemblée des tiers états.
On est un peu doté déjà, enfin, on parle pas de la...
Pas en Europe, non, on n'a pas d'assemblée européenne souveraine. Ben oui, mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui...
Il y a un parlement à ce stade.
Mais il n'est pas souverain. Vous comprenez bien la différence, c'est-à-dire que c'est un parlement qui discute, ce qui est très utile de discuter, mais à un moment, il faut pouvoir décider. Pourquoi on est toujours dans une situation aujourd'hui où les plus grandes sociétés ne paient pas d'impôts. Je précise que dans notre projet, le traité permettrait à cette assemblée souveraine de voter quatre impôts importants et qui permettront de financer notamment une transition vers un développement plus durable, une transition vers les nouvelles énergies. Ces quatre impôts sont un impôt commun sur les bénéfices des sociétés, un impôt commun sur les plus hauts revenus, au-delà de 200 000 euros, qui ont bénéficié de façon disproportionnée des gains de l'intégration européenne et de l'intégration économique et commerciale, et un impôt commun sur les plus hauts patrimoines, au-delà d'un million d'euros, dans l'exemple, et un impôt commun sur le carbone. Et ça, c'est très important dans le débat actuel, parce que si on veut qu'on ait une politique carbone qui soit acceptable, il faut mettre à contribution les plus hauts revenus, les plus hauts patrimoines. Et dans notre projet, la moitié de ces recettes, c'est très important, sera reversé au pays.
En tout cas, il y a tout sur le site.
Pour qu'ils puissent abaisser les impôts des classes populaires, abaisser la TVA, abaisser la CSG, augmenter les bas salaires, le SMIC dont vous parliez tout à l'heure.
C'est un projet de
justice fiscale, ce n'est pas technique, c'est politique.
Oui, mais
il faut le voir parce que c'est détaillé dans le manifeste.
Ça mérite lecture. On est au standard avec Christian, bonjour, bienvenue sur Inter. On vous entend, on vous écoute maintenant.
Très bien. Oui, c'est sur le rétablissement de la moitié de l'ISF que propose Thomas Piketty. Je voulais poser la question suivante. L'ISF existe depuis une trentaine d'années en France, et en même temps, on a en France, dans la même période, un chômage massif. Or, les autres pays européens, soit n'ont pas l'ISF, soit l'ont supprimé, comme les pays scandinaves, et ils n'ont pas de chômage massif. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de lien entre les deux choses? Parce qu'on est quand même en Europe, justement, dans la perspective européenne de Thomas Piketty, tout à fait justifié. On est dans une économie ouverte, et donc comment peut-on avoir une situation différente au plan de la fiscalité économique? Si vous voulez, je ferai une analogie sportive. Si on envoie les athlètes français aux Jeux Olympiques avec des boulets aux pieds, la question qui est posée par Thomas Piketty sur le doute de l'influence de l'ISF sur le chômage, c'est est-ce que si on retire leur boulet au pied des athlètes français, ils vont gagner des médailles? Je répondrai qu'on n'est pas sûr qu'ils vont gagner des médailles, mais qu'on est sûr que si on maintient les boulets au pied, ils n'auront pas de médailles.
Merci Christian pour cette question. Beaucoup de réactions à vos propos sur l'ISF. Avec Thomas Piketty, dit Marc, la chasse aux riches est ouverte. Roger, Piketty est de mauvaise foi quand il parle du niveau de l'ISF. Il oublie de retrancher l'IFI. C'est de la démagogie, monsieur Piketty, etc. Alors, sur la question structurée et nourrie de Christian.
Oui, alors, je veux quand même rappeler, parce que vos auditeurs sont très énervés contre l'ISF, mais la plupart des Français sont très énervés contre la suppression de l'ISF. 80% des Français le regrettent. Donc
je vous rassure, on a beaucoup d'auditeurs
J'en suis certain, mais je veux prendre au sérieux la question, en particulier la métaphore sportive qui a été proposée est tout à fait de bon sens. Mais à un moment, on peut pas juste comme ça faire des métaphores avec le sport. Il faut quand même regarder ce qui se passe vraiment. Vous dites, le chômage en France, c'est à cause de l'ISF. Bon, d'accord, mais vous avez pas d'ISF en Italie, en Espagne, en Grèce, vous avez un chômage beaucoup plus important. Donc, vous voyez que ça peut pas être si simple que ça. Donc, moi, d'un point de vue pragmatique, on a envie de regarder est-ce que l'ISF faisait fuir ou non les contribuables. Et ce que je vous dis, c'est que si on regarde factuellement, et toutes les données sont en ligne, on les a mis dans la World Inequality Database, WID.World, vous avez toutes les données année par année, le nombre de contribuables et le montant des patrimoines a progressé encore plus vite que les patrimoines immobiliers, encore plus vite que les cours boursiers. Donc, l'idée qu'il y avait une hémorragie, c'est faux.
Il n'a pas empêché des riches de partir.
Mais il y a des riches qui rentrent aussi. Vous savez, alors là, vraiment, vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent vivre à Paris. Sinon, d'ailleurs, ça ne soutiendrait pas les cours immobiliers qu'on a. Juste pour mettre en perspective aussi la question de l'ISF. Je pense qu'il faut raisonner de façon plus large sur le système fiscal, en particulier sur la question de la taxe foncière. Vous savez, la taxe foncière, c'est plus de 40 milliards d'euros. Donc, c'est autrement plus lourd que l'ISF. C'est le premier impôt sur le patrimoine en France, c'est les 40 milliards. C'est un impôt qui est injuste. Pourquoi? Parce que on prend pas en compte les patrimoines financiers, on ne prend pas en compte les dettes. Donc vous avez 200 000 euros, un appart de 200 000 euros, vous payez la même taxe foncière, même si vous avez un emprunt de 180 000 euros, ce qui fait qu'en fait vous ne possédez rien, parce que vous devez rembourser votre emprunt comme si vous étiez locataire, avec votre loyer, et vous payez la même taxe foncière que quelqu'un qui n'aurait pas d'emprunt et qui aurait même 1 million d'euros d'actifs financiers et qui aurait un patrimoine total de 1,2 million. Donc est-ce que ça c'est juste? Moi je pense que non, je pense qu'il faudrait réduire la taxe foncière sur les personnes qui ont des petits patrimoines, qui sont en voie d'accession à la priorité, et l'augmenter effectivement pour ceux qui ont plusieurs millions d'euros de patrimoine, en prenant en compte tous les éléments de patrimoine.
Il y a une alternative au rétablissement de l'ISF. Beaucoup parlent, dont Laurent Berger à ce micro la semaine dernière, d'une nouvelle tranche, d'une sixième tranche autour de 60%. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une bonne idée ou une mauvaise?
Je pense que d'une part, ça ne rapportera pas du tout le même argent. Donc là, on est sur des montants qui vont être 5 fois plus faibles, 10 fois plus faibles que les 4 ou 5 milliards d'euros de l'ISF perdus. Donc, il faut quand même voir que la réforme de l'ISF, vos auditeurs parlaient de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, mais ça rapporte 1 milliard et non pas 5. Donc on a vraiment perdu beaucoup d'argent. La tranche supérieure ne rapporte pas ça. Et d'autre part, d'un point de vue logique et économique, il est normal de mettre à contribution non seulement les hauts revenus, mais les hauts patrimoines, qui ne sont pas exactement les mêmes personnes, en particulier en termes de tranche d'âge. Les hauts patrimoines sont quand même sérieusement plus âgés que les hauts revenus. Je n'ai rien contre eux, mais il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas de patrimoine. Mais ce n'est pas exactement les mêmes profils, et il n'y a pas de raison, logiquement. Oui, réfléchissez à sur la taxe foncière. Personne ne va supprimer la taxe foncière 40 milliards pour augmenter de 40 milliards d'impôts l'impôt sur le revenu. Il y a un équilibre à trouver entre les différentes formes d'imposition, entre l'imposition de la propriété du patrimoine et l'imposition du revenu.
Donc pour vous, l'alpha et l'oméga, c'est l'ISF, quoi. Si on comprend ce que vous dites depuis tout à l'heure.
Par ailleurs, il y a beaucoup de choses à faire sur l'impôt sur le revenu, sur l'impôt sur la succession, mais ça ne va pas être une excuse pour valider la suppression de l'ISF.
Merci Thomas Piketty d'avoir été au micro d'Inter ce matin. On indiquera évidemment sur le site internet du 7-9 l'ensemble des liens vers ce manifeste que vous lancez aujourd'hui pour une assemblée européenne souveraine et un budget européen substantiel.